University of Cambridge International Examinations. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, May-June 2012. Part 2. Listening. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Texte à écouter 1. L'interview de Florence Aubenas. Le travail précaire.
Florence Aubenas, vous avez décidé d'aller voir comment on vivait dans la France défavorisée en vous mettant dans la peau d'une travailleuse pauvre.
Je suis partie m'installer à Calais pendant 6 mois. J'ai pris une valise, loué une chambre et je suis allée m'inscrire au Pôle emploi.
Aviez-vous délibérément choisi de partir au plus bas de l'échelle ?
Je me suis présentée comme sans qualification. Pour les fonctionnaires du Pôle emploi, je faisais partie du fond de la casserole. J'étais bonne à rien. On m'a orientée vers les ménages en me disant que c'était un boulot d'avenir. L'emploi le plus régulier que j'ai eu, c'était le nettoyage des toilettes sur les ferries qui traversent la Manche. Mes amis m'avaient mis en garde pourtant. Ne prends pas, c'est trop dur. Mais j'ai pris. Une éternité pour récurer les toilettes. Et puis, il me fallait plus d'une heure pour me rendre sur place et autant pour en revenir.
Vous étiez épuisée ?
Oui, totalement. Je rentrais chez moi à minuit, après mon dernier ménage, et je repartais le matin à 4h30 pour le ferry, 6 jours sur 7. Résultat, j'ai perdu pas mal de poids et je manquais de sommeil.
Avez-vous réussi à vivre avec ce que vous gagnez ?
J'ai fait très attention. J'ai gagné au maximum 700 euros par mois, et ma chambre me coûtait déjà 350. Je ne me suis autorisé qu'un café dans un bar en 6 mois. Et ni resto, ni ciné, évidemment.
Finalement, quelles leçons tirez-vous de l'expérience ?
J'ai découvert la vraie précarité. Être à la merci de tout et de tous. On sait qu'il y a 20% de travailleurs précaires en France, où les contrats de travail ne sont que des principes théoriques, jamais appliqués.
Texte à écouter 2. Veux-tu me sponsoriser ?
C'était en 2009 que le premier couple français a financé son mariage grâce au sponsoring. Depuis, une dizaine d'autres couples sponsorisés a réduit la facture de moitié. Cette année, Aurore et Alexandre ont fait de même. Pour y parvenir, le couple a mis plus de 18 mois à organiser cette journée, contre 6 à 12 pour un mariage classique.
Alexandre était le seul à avoir un emploi fixe. On souhaitait vraiment faire quelque chose pour notre image, malgré notre budget limité. On a cherché différents moyens pour réduire la note. Louer une robe ou faire sa propre décoration. Puis, ma mère m'a donné l'idée du sponsoring. Les premières tentatives n'ont pas marché. On nous demandait « Êtes-vous célèbre ?» par exemple. Puis, nous avons mis en place des arguments commerciaux.
Aurore se dit ravie de l'expérience. Elle reconnaît cependant que ça n'a pas plu à tout le monde.
En effet, la génération des parents et grands-parents n'a pas compris notre démarche et certains d'entre eux ont préféré ne pas venir. Quant à la présence des télévisions à la sortie de l'église, c'était la catastrophe.
Par ailleurs, il y avait les commerçants qui avaient proposé leurs services gratuitement ou à tarif réduit. Le styliste, par exemple, a créé la robe d'Aurore sans la faire payer. Mais c'est elle qui a fourni le tissu. S'il a accepté, c'était pour se faire connaître dans la région de Strasbourg. Il avoue être satisfait du résultat et explique
« J'ai eu une trentaine de prises de contact avec de nouveaux clients.
et 17 rendez-vous confirmés pour le mois d'août. Une jeune femme m'a même appelé de Bordeaux après avoir vu un reportage sur Aurore.
L'aventure lui a donc permis d'approcher une clientèle restée jusqu'alors imperméable à ses publicités dans la presse locale.
Texte à écouter 3. La compagnie de pneus Michelin invente une machine révolutionnaire.
Au milieu des années 90, Michelin invente une machine révolutionnaire et doit absolument préserver son secret. Alors, l'entreprise lance une rumeur. Elle fait croire que la nouvelle machine peut fonctionner dans la vieille usine du centre-ville. Afin de tromper les Américains et les Japonais qui les espionnaient, ils vont continuer pendant plusieurs mois à faire entrer et sortir des camions, à faire tourner à vide cette usine pour faire croire qu'il y a de l'activité. Alors les concurrents américains et japonais louaient des villas pour espionner, pour surveiller les entrées et sorties des camions, pour essayer de deviner ce qui se passait à l'intérieur.
Vous savez, en surveillant, on peut déduire un certain nombre de choses sur l'efficacité de la machine, sur sa rapidité. Il est très important de savoir pour la machine en question si c'est vraiment une nouvelle technologie ou bien une petite amélioration. L'un des enjeux dans une guerre économique, c'est de garder ses recherches secrètes pour obliger ses concurrents à dépenser aussi de l'argent pour financer soit l'espionnage, soit la recherche. En plus, il faut prendre assez d'avance pour introduire un produit sur le marché le plus tôt possible, de manière à ce que les autres ne puissent pas suivre.
Ces fausses rumeurs permettent aux grandes entreprises ou de préserver ou d'améliorer leur part du marché.
This is the end of the recorded material.